This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for French, November 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Français, novembre 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de francés, noviembre 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texte A. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
vous allez entendre Caroline parler de l'abstention des jeunes lors des élections au Québec.
Bonjour à toutes et à tous. On m'avait dit qu'il n'y aurait pas grand monde, que les élections, ça n'intéressait pas les jeunes. Vous avez fait mentir ces gens-là. Merci. Cela dit, ils n'ont pas tout à fait tort. En effet, la participation des 18 à 34 ans aux élections est faible, trop faible. En 2019, par exemple, si la participation des 65 à 74 ans a atteint 79 %, dans votre tranche d'âge, les 18 à 24 ans, le taux d'abstention était de 46 %. C'est énorme. Alors, pourquoi les jeunes ne vont pas voter? Voici trois des raisons principales à l'abstention. Premièrement, le cynisme. Les jeunes ont perdu confiance dans le monde politique. Et pour eux, tous ces partis, quels qu'ils soient, c'est du pareil au même. À quoi bon choisir l'un ou l'autre? Deuxièmement, le désintérêt. Les programmes électoraux ne tiennent pas compte de leurs aspirations. Les jeunes ne se sentent pas concernés et ils pensent que les grands combats ont déjà été menés, que voter n'est plus essentiel. Enfin, le changement d'attitude. Aujourd'hui, les jeunes s'expriment autrement. Ils préfèrent les réseaux sociaux aux urnes. Et pour eux, manifester est plus efficace pour faire bouger les choses. Je vous laisse maintenant quelques minutes pour discuter de ce qui vous a poussé à aller voter ou la raison de votre abstention. Alors, comment faire baisser votre taux d'abstention? Le directeur général des élections du Québec a tenu compte de tous les freins et de toutes vos objections. Il a trouvé une stratégie plus efficace pour vous inciter à aller voter. Il a lancé la campagne « À ton tour ». Vous préférez communiquer et vous informer en ligne. La campagne sera diffusée sur un site web dédié. Un SMS de rappel vous sera envoyé au moment des élections. Ce mode de diffusion vous correspond, non? Plus de discours officiels, souvent moralisateurs. Plus de messages comme « Remplissez votre devoir de citoyen ». Fini les campagnes avec les mêmes messages pour toutes les tranches d'âge. Ça ne marchait pas. Sur le site, vous trouverez des vidéos où des jeunes s'adressent aux jeunes, dans le langage des jeunes. Pas de censure. Les 18 à 35 ans représentent environ un tiers de l'électorat. Alors, allez voter en masse, et les politiques seront bien obligés de tenir compte de vos aspirations. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Faites entendre votre voix, elle compte vraiment. À bientôt près des urnes.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Bonjour à toutes et à tous. On m'avait dit qu'il n'y aurait pas grand monde, que les élections, ça n'intéressait pas les jeunes. Vous avez fait mentir ces gens-là. Merci. Cela dit, ils n'ont pas tout à fait tort. En effet, la participation des 18 à 34 ans aux élections est faible, trop faible. En 2019, par exemple, si la participation des 65 à 74 ans a atteint 79 %, dans votre tranche d'âge, les 18 à 24 ans, le taux d'abstention était de 46 %. C'est énorme. Alors, pourquoi les jeunes ne vont pas voter? Voici trois des raisons principales à l'abstention. Premièrement, le cynisme. Les jeunes ont perdu confiance dans le monde politique. Et pour eux, tous ces partis, quels qu'ils soient, c'est du pareil au même. À quoi bon choisir l'un ou l'autre? Deuxièmement, le désintérêt. Les programmes électoraux ne tiennent pas compte de leurs aspirations. Les jeunes ne se sentent pas concernés. Et ils pensent que les grands combats ont déjà été menés, que voter n'est plus essentiel. Enfin, le changement d'attitude. Aujourd'hui, les jeunes s'expriment autrement. Ils préfèrent les réseaux sociaux aux urnes. Et pour eux, manifester est plus efficace pour faire bouger les choses. Je vous laisse maintenant quelques minutes pour discuter de ce qui vous a poussé à aller voter ou la raison de votre abstention. Alors, comment faire baisser votre taux d'abstention? Le directeur général des élections du Québec a tenu compte de tous les freins et de toutes vos objections. Il a trouvé une stratégie plus efficace pour vous inciter à aller voter. Il a lancé la campagne « À ton tour ». Vous préférez communiquer et vous informer en ligne. La campagne sera diffusée sur un site web dédié. Un SMS de rappel vous sera envoyé au moment des élections. Ce mode de diffusion vous correspond, non? Plus de discours officiels, souvent moralisateurs. Plus de messages comme « Remplissez votre devoir de citoyen ». Fini les campagnes avec les mêmes messages pour toutes les tranches d'âge. Ça ne marchait pas. Sur le site, vous trouverez des vidéos où des jeunes s'adressent aux jeunes, dans le langage des jeunes. Pas de censure. Les 18 à 35 ans représentent environ un tiers de l'électorat. Alors, allez voter en masse, et les politiques seront bien obligés de tenir compte de vos aspirations. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Faites entendre votre voix, elle compte vraiment. À bientôt près des urnes.
Maintenant, vous avez 2 minutes et 30 secondes pour finir de répondre aux questions. texte B. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre deux amis, Célia et Michel, parler de la vie en mini-maison.
Bienvenue chez moi, Michel. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma tiny house?
Elle est super. Mais pourquoi tiny house?
Tu préfères que je dise mini-maison? On les appelle tiny house? Parce que ce concept vient de Californie. En plus d'être mini, elles sont mobiles.
C'est difficile de déplacer ta maison?
Non. Tu as vu? Elle est construite sur un plateau avec des roues. Il faut seulement avoir une voiture puissante et un permis spécial si la maison est trop lourde.
Et pourquoi tu as choisi ce mode de vie ?
L'envie d'habiter où je veux, quand je veux, mais surtout de vivre plus simplement.
Je vois. L'environnement est très minimaliste. C'est très bien organisé, mais la maison est vraiment très petite.
C'est vrai. Avant de m'installer dans cette maison, j'ai trié mes affaires et gardé que ce qui est vraiment utile.
J'ai tellement de choses chez moi. Ça serait quasiment mission impossible de faire le tri nécessaire.
Je sais. Ton frère m'a dit. Michel, il adore accumuler. Mais si tu y réfléchis, tu te sers vraiment de tout ?
Pas vraiment, c'est vrai. Alors, tu veux dire ?
Que tu dois te débarrasser du superflu. Et une fois que tu es dans ta mini-maison, tu n'achètes que le strict nécessaire.
Moins d'achats, c'est moins de dépenses. Et ce petit espace, c'est plus facile à chauffer l'hiver. Donc, j'imagine qu'on fait des économies là aussi.
Oui, avec les pas plus de 30 mètres carrés de la loi, c'est plus facile. On va se promener ?
D'accord. Là, tu es près d'un joli village isolé. Tu comptes rester combien de temps ?
3 mois au plus. Pour l'instant, c'est le maximum autorisé par la loi.
Mais tu aimes le coin. Tu ne peux pas rester plus longtemps ?
Je peux toujours déménager du terrain municipal à un terrain privé.
C'est bien d'avoir ces options. Moi, je suis coincé dans le même appart, la même ville, toute l'année. Et ça, j'en ai marre.
Alors que moi, je vais près de la côte, d'avril à septembre. Et d'octobre à mars, direction la montagne.
Bref, 4 fois par an, tu accroches ta remorque et tu bouges.
Ça me permet de connaître de nombreuses régions et aussi de rencontrer d'autres habitants de la communauté des mini-maisons.
Vous êtes nombreux à vivre comme ça ?
Oui, il y avait 600 mini-maisons en 2019, alors maintenant, ça approche les 1000. Et la communauté est très active. On est indépendant, mais on sait aussi s'épauler.
Ça me plaît vraiment tout ça. Dis-moi, ça coûte cher une maison comme ça ?
Ça dépend. Si tu la construis toi-même, ça va de 15 000 à 30 000 euros. Si tu t'adresses à un professionnel, là, le clé en main, te coûtera de 50 000 jusqu'à 100 000 euros pour le haut de gamme.
Je ne suis pas bricoleur. Alors pour moi, ce sera plutôt clé en main.
Si tu veux faire un essai, avant d'acheter une mini-maison, tu peux en louer une. Tiens, voici quelques contacts utiles.
Merci, Célia.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la 2e et dernière fois.
Bienvenue chez moi, Michel. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma tiny house?
Elle est super. Mais pourquoi tiny house?
Tu préfères que je dise mini-maison? On les appelle tiny house parce que ce concept vient de Californie. En plus d'être mini, elles sont mobiles.
C'est difficile de déplacer ta maison?
Non. Tu as vu? Elle est construite sur un plateau avec des roues. Il faut seulement avoir une voiture puissante et un permis spécial si la maison est trop lourde.
Et pourquoi tu as choisi ce mode de vie?
L'envie d'habiter où je veux, quand je veux, mais surtout de vivre plus simplement.
Je vois. L'environnement est très minimaliste. C'est très bien organisé, mais la maison est vraiment très petite.
C'est vrai. Avant de m'installer dans cette maison, j'ai trié mes affaires et garder que ce qui est vraiment utile.
J'ai tellement de choses chez moi. Ça serait quasiment mission impossible de faire le tri nécessaire.
Je sais. Ton frère m'a dit. Michel, il adore accumuler. Mais si tu y réfléchis, tu te sers vraiment de tout?
Pas vraiment, c'est vrai. Alors, tu veux dire...
Que tu dois te débarrasser du superflu. Et une fois que tu es dans ta mini-maison, tu n'achètes que le strict nécessaire.
Moins d'achats, c'est moins de dépenses. Et ce petit espace, c'est plus facile à chauffer l'hiver. Donc, j'imagine qu'on fait des économies là aussi.
Oui. Avec les pas plus de 30 mètres carrés de la loi, c'est plus facile. On va se promener?
D'accord. Là, tu es près d'un joli village isolé. Tu comptes rester combien de temps?
3 mois, au plus. Pour l'instant, c'est le maximum autorisé par la loi.
Mais tu aimes le coin. Tu ne peux pas rester plus longtemps?
Je peux toujours déménager du terrain municipal à un terrain privé.
C'est bien d'avoir ces options. Moi, je suis coincé dans le même appart, la même ville, toute l'année. Et ça, j'en ai marre.
Alors que moi, je vais près de la côte, d'avril à septembre. Et d'octobre à mars, direction la montagne.
Bref, 4 fois par an, tu accroches ta remorque et tu bouges.
Ça me permet de connaître de nombreuses régions et aussi de rencontrer d'autres habitants de la communauté des mini-maisons.
Vous êtes nombreux à vivre comme ça?
Oui, il y avait 600 mini-maisons en 2019, alors maintenant, ça approche les 1000. Et la communauté est très active. On est indépendant, mais on sait aussi s'épauler.
Ça me plaît vraiment tout ça. Dis-moi, ça coûte cher une maison comme ça?
Ça dépend. Si tu la construis toi-même, ça va de 15 000 à 30 000 euros. Si tu t'adresses à un professionnel, là, le clé en main te coûtera de 50 000 jusqu'à 100 000 euros pour le haut de gamme.
Je ne suis pas bricoleur. Alors pour moi, ce sera plutôt clé en main.
Si tu veux faire un essai, avant d'acheter une mini-maison, tu peux en louer une. Tiens, voici quelques contacts utiles.
Merci, Célia.
Maintenant, vous avez 2 minutes et 30 secondes pour finir de répondre aux questions. Texte C. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Sophie interviewer JB sur le karaté.
Bienvenue sur Radio Mon Dojo. Aujourd'hui, nous allons parler de karaté avec JB. Bonjour JB.
Bonjour Sophie.
Dites-moi, est-ce que le karaté est populaire en France ?
Oui. Pourtant, son histoire est relativement récente. Il est arrivé en France dans les années 50. La Fédération française de karaté a été créée en 1977. Il y a 260 000 licenciés, toutes disciplines d'arts martiaux confondues, dont 170 000 rien que dans le karaté.
Et pourquoi avez-vous choisi le karaté ?
Je l'ai découvert en accompagnant mon fils à son club. L'ambiance et les valeurs m'ont vraiment plu. Alors je me suis inscrit. Ça fait 1 an et demi déjà.
On fait du karaté pour différentes raisons, mais qu'est-ce que ça vous a apporté, à vous ?
Je canalise mieux mon énergie. Je suis toujours stressée, mais je gère mieux mon stress. Et aussi, j'ai plus confiance en moi, parce que je peux me défendre.
Et pourquoi participez-vous à 2 cours, les enfants et les adultes ?
Parce que chaque cours m'apporte quelque chose de différent. Avec les enfants, j'apprends les techniques de base. Avec les adultes, je m'entraîne aux affrontements.
Avant l'émission, vous m'avez parlé d'humilité.
Oui, un adulte doit être humble pour accepter de s'entraîner avec des enfants. Et il y a la patience aussi. Par exemple, un karatéka de 12 ans, qui a largement le niveau, doit attendre 2 ans pour être ceinture noire. Parce que l'âge minimum, c'est 14 ans.
Je vois que vous êtes ceinture verte. Pourtant, normalement, il faut 2 ans de pratique pour obtenir cette ceinture.
C'est la récompense d'une pratique intensive et de beaucoup de rigueur.
Et la ceinture noire, pour vous, c'est la récompense ultime, non ?
Pour moi, comme pour les autres, être ceinture noire, ce n'est pas une fin en soi. Ce niveau, c'est avoir une technique parfaite et avoir vraiment intégré les valeurs du karaté. Ce à quoi on aspire, c'est la maîtrise de notre corps et de notre esprit. Pas forcément d'obtenir une ceinture d'une couleur ou d'une autre.
Bien, nous allons faire une petite pause maintenant. On se retrouve après. Rebonjour, je suis ici avec JB qui nous parle du karaté. Pouvez-vous me parler des valeurs de ce sport ?
Art, pas sport. Il y en a beaucoup. L'idée de départ, c'est d'apprendre à se défendre. On n'est pas là pour attaquer. Dans mon club, le Dojo Kun, nous nous concentrons sur 5 valeurs.
Lesquelles ?
Rechercher la perfection du caractère, être fidèle, être constant dans l'effort, respecter les autres, retenir toute conduite violente.
Et elles sont vraiment présentes dans la pratique, chaque semaine ?
Oui, absolument. L'attitude de chacun, ça démontre vraiment le respect de ses valeurs. C'est formidable ce respect, et l'entraide aussi. C'est une notion très importante.
Vous pouvez me donner un exemple concret ?
Défendre les autres. Dans notre club, les plus forts se mettent du côté de la porte. Comme ça, s'il y a une attaque, ils peuvent faire barrage et défendre les plus faibles.
Une dernière question. Pourquoi on appelle ça art martial et pas sport martial ?
On dit art parce que ce n'est pas que sportif. C'est aussi l'esprit. On se met en condition quand on commence le cours. Avec le salut, la méditation au début et à la fin. On est dans l'énergie du karaté. Et puis, petit à petit, les valeurs du karaté font partie intégrante de notre personnalité.
Nous arrivons hélas à la fin de cette émission. À bientôt sur le tatami.
Je vous y attendrai.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la 2e et dernière fois.
Bienvenue sur Radio Mon Dojo. Aujourd'hui, nous allons parler de karaté avec JB. Bonjour JB.
Bonjour Sophie.
Dites-moi, est-ce que le karaté est populaire en France ?
Oui. Pourtant, son histoire est relativement récente. Il est arrivé en France dans les années 50. La Fédération française de karaté a été créée en 1977. Il y a 260 000 licenciés, toutes disciplines d'arts martiaux confondues, dont 170 000 rien que dans le karaté.
Et pourquoi avez-vous choisi le karaté ?
Je l'ai découvert en accompagnant mon fils à son club. L'ambiance et les valeurs m'ont vraiment plu. Alors je me suis inscrit. Ça fait un an et demi déjà.
On fait du karaté pour différentes raisons, mais qu'est-ce que ça vous a apporté, à vous ?
Je canalise mieux mon énergie. Je suis toujours stressée, mais je gère mieux mon stress. Et aussi, j'ai plus confiance en moi, parce que je peux me défendre.
Et pourquoi participez-vous à deux cours, les enfants et les adultes ?
Parce que chaque cours m'apporte quelque chose de différent. Avec les enfants, j'apprends les techniques de base. Avec les adultes, je m'entraîne aux affrontements.
Avant l'émission, vous m'avez parlé d'humilité.
Oui, un adulte doit être humble pour accepter de s'entraîner avec des enfants. Et il y a la patience aussi. Par exemple, un karatéka de 12 ans, qui a largement le niveau, doit attendre 2 ans pour être ceinture noire. Parce que l'âge minimum, c'est 14 ans.
Je vois que vous êtes ceinture verte. Pourtant, normalement, il faut 2 ans de pratique pour obtenir cette ceinture.
C'est la récompense d'une pratique intensive et de beaucoup de rigueur.
Et la ceinture noire, pour vous, c'est la récompense ultime, non ?
Pour moi, comme pour les autres, être ceinture noire, ce n'est pas une fin en soi. Ce niveau, c'est avoir une technique parfaite et avoir vraiment intégré les valeurs du karaté. Ce à quoi on aspire, c'est la maîtrise de notre corps et de notre esprit. Pas forcément d'obtenir une ceinture d'une couleur ou d'une autre.
Bien, nous allons faire une petite pause maintenant. On se retrouve après. Rebonjour, je suis ici avec JB qui nous parle du karaté. Pouvez-vous me parler des valeurs de ce sport ?
Art, pas sport. Il y en a beaucoup. L'idée de départ, c'est d'apprendre à se défendre. On n'est pas là pour attaquer. Dans mon club, le Dojo Kun, nous nous concentrons sur 5 valeurs.
Lesquelles ?
Rechercher la perfection du caractère, être fidèle, être constant dans l'effort, respecter les autres, retenir toute conduite violente.
Et elles sont vraiment présentes dans la pratique, chaque semaine ?
Oui, absolument. L'attitude de chacun, ça démontre vraiment le respect de ses valeurs. C'est formidable ce respect, et l'entraide aussi. C'est une notion très importante.
Vous pouvez me donner un exemple concret ?
Défendre les autres. Dans notre club, les plus forts se mettent du côté de la porte. Comme ça, s'il y a une attaque, ils peuvent faire barrage et défendre les plus faibles.
Une dernière question. Pourquoi on appelle ça art martial et pas sport martial ?
On dit art parce que ce n'est pas que sportif, c'est aussi l'esprit. On se met en condition quand on commence le cours, avec le salut, la méditation au début et à la fin. On est dans l'énergie du karaté. Et puis, petit à petit, les valeurs du karaté font partie intégrante de notre personnalité.
Nous arrivons hélas à la fin de cette émission. À bientôt sur le tatami.
Je vous y attendrai.
Maintenant, vous avez le reste du temps pour finir de répondre aux questions.